Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle conférence donc organisée par Asialiste et l'INALCO. Donc comme à chaque fois, c'est un événement hybride puisque nous sommes donc ici présents, nous avons également une diffusion sur le live YouTube, et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions, on en choisira certaines qui seront posées lors de la seconde partie de cette conférence. Conférence donc consacrée à TikTok, le réseau social dont tout le monde parle. Alors je vais tenter de mettre une petite vidéo d'illustration de TikTok, si j'y arrive. Ce sont les vidéos, en fait, quand j'ai découvert TikTok il y a quelques semaines, où j'ai, c'est la première vidéo, j'ai fait une capture d'écran de mon téléphone. Alors je ne sais pas si elle va partir. On va voir, il faut que je fasse Windows P, on m'a dit, et que je mette dupliquer. Voilà, et normalement, ça doit partir. Voilà, c'est. Bon, je vais peut-être vous épargner le son. Voilà, j'ai découvert un monde que moi, je ne connaissais pas du tout. Ce monde, donc, de vidéos rythmées, virales, extrêmement courtes. Que 1,7 milliard de personnes ont suivi pendant l'année 2022 dans le monde entier, réseau donc qui a su conquérir une grande majorité de jeunes avec donc les vidéos que vous voyez ici qui sont faciles à réaliser, faciles à éditer, à partir desquelles on peut apprendre donc à monter une étagère, cuisiner une recette, parfaire son maquillage, effectuer une chorégraphie, diffuser un message éducatif ou politique, mais aussi se lancer des défis aussi loufoques que dangereux dans certains cas. Et TikTok donc qui est aujourd'hui pointé du doigt par un ensemble d'acteurs gouvernementaux, notamment à l'étranger, en particulier en Occident. On lui reproche donc son manque de projection de données, de protection pardon, des données personnelles. On lui reproche d'entraîner une addiction qui n'a jamais été vue jusqu'ici sur les réseaux sociaux. 95 minutes passées en moyenne par les utilisateurs chaque jour. Chaque utilisateur en moyenne passe 95 minutes sur TikTok grâce à son algorithme ultra personnalisé. Et on lui reproche bien sûr son appartenance à une société chinoise, en l'occurrence la maison mère de TikTok, qui s'appelle ByteDance et qui est un géant d'Internet qui est basé à Pékin. Aux États-Unis, TikTok est menacé. Merci Reina.
Si t'as besoin de rien.
Écoutez, TikTok est menacé d'interdiction qui fait donc l'objet d'une enquête de la part du Congrès américain. Son PDG, donc Shou Zhe Chu, a d'ailleurs passé une audition extrêmement musclée. C'était le 23 mars dernier devant le Congrès. Les institutions européennes, elles, l'ont interdit sur les téléphones professionnels de leurs salariés. Et vous avez de nombreux gouvernements qui ont fait de même. En France, par exemple, vous avez une commission d'enquête sénatoriale qui planche justement sur ce cas TikTok en ce moment. Je crois d'ailleurs que vous allez y participer, ou en tout cas vous allez intervenir devant, vous allez être auditionné devant cette commission, pour savoir si TikTok est un, je cite, un instrument potentiel de désinformation ou de manipulation au profit de régimes non démocratiques. Voilà donc pour le tableau. Nous n'avons pas la prétention d'apporter toutes les réponses, mais quelques éclairages ce soir sur ce sujet complexe aux dimensions, tu peux venir Quentin, aux dimensions aussi techniques que géopolitiques, avec donc nos trois invités. Reina Stamboliska, spécialiste en gestion de l'incertitude et diplomatie numérique. Vous êtes auteur de La face cachée d'Internet, livre qui est paru en 2017, hein, je crois, 2017. Alain Wang, à votre gauche, bonsoir Alain, sinologue, vous enseignez notamment à Centrale Supélec et vous êtes ancien rédacteur en chef d'Asia Magazine. Et Bernard Benabou, à ma droite, bonsoir, vous êtes secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique, et pas de la surveillance, je me suis trompé tout à l'heure, association à but non lucratif, expert de l'Internet et de sa gouvernance. Allez, on va d'abord commencer par l'aspect purement technique pour faire un peu de vulgarisation. Vous voyez ici le PDG de TikTok, Shou Zhe Chu, qui est la personne qui a été auditionnée donc récemment devant le Congrès américain, cette audition très musclée dont je vous parlais tout à l'heure. Avec vous, Reina, alors l'une des craintes autour de TikTok, on va vraiment essayer d'être très pédagogique, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est que les données des utilisateurs se retrouvent en dehors des pays où ils utilisent TikTok, et en particulier en Chine, entre les mains du Parti communiste chinois. C'est faux, rétorque Shou Zhe Chu, qu'on voit ici, qui est singapourien d'ailleurs, qui n'est pas chinois, et qui, pour d'ailleurs lever tout doute, s'est engagé dans deux grands projets de cloisonnement des données des utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le projet, alors on va le voir ici, Texas aux États-Unis, le projet Trèfle dans l'Union européenne que vous voyez ici. En gros, il promet que l'ensemble des données des utilisateurs américains et européens seront bientôt hébergées respectivement aux États-Unis et dans l'Union européenne. Voilà, concrètement, la première question moi, que je me pose, c'est quelle est l'efficacité, quelle est la garantie qu'il apporte. Alors je précise quand même une chose, aux États-Unis, on va le voir sur le projet Texas, c'est Oracle qui va être chargé de superviser les données, le code source, les algorithmes de TikTok, et en Europe... c'est une société qu'on ne connaît pas encore, c'est une société tierce, et ils s'engagent à ce que d'ici 2024, ça soit stocké tout en Europe, en Irlande et en Norvège. Est-ce que techniquement, juridiquement, c'est une garantie qui est suffisante pour protéger les données des utilisateurs ?
J'ai droit de répondre, ça dépend.
Oui, bien sûr.
Bon, avant toute chose, merci beaucoup pour l'invitation. Désolée pour le retard, les incidents de transport parisien. Et puis, désolée aussi pour ma voix un peu bizarre.
Oui, très bien.
J'ai une angine. Donc, merci pour le micro, ça c'est top. Grande question, est-ce qu'on peut faire confiance quand on nous dit la main sur le cœur, vous inquiétez pas, je vous promets, je vais tout vachement bien faire. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, on va faire table rase et puis on va faire autrement. Bien sûr, on aimerait y croire, parce que c'est toujours délicat de se dire, quand quelqu'un me promet quelque chose, ma première pensée, c'est de ne pas y croire. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement été, floués par différentes promesses non tenues, que arrive la question quelle crédibilité attribuer à ce genre de propos. Toujours est-il que il n'y a pas de démonstration claire, vraiment tangible, factuelle, extrêmement factuelle, etc., que le Parti communiste chinois ait accédé à des données de citoyens européens, de citoyens américains, etc. Il y a eu différents accidents qui ont émaillé l'actualité, qu'il s'agisse de personnes travaillant pour TikTok qui ont accédé à des données et qu'ils ont transmises, etc. Il y a eu différents accidents. De là, en fait, à établir un canal de communication direct de moi, utilisatrice, vers un apparatchik du Parti communiste chinois, je pense qu'on va un peu vite en besogne. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de passerelle. Et donc toute la question qui se pose et que vous posez à juste titre, c'est est-ce que on peut, techniquement, juridiquement, matériellement en fait, limiter ces passerelles-là et assurer une transparence de justement qui fait quoi avec ces données-là ? Parce que jusqu'à présent, je travaille ma subtilité, la politique de protection de données à caractère personnel de TikTok mériterait d'être clarifié. Je travaille ma subtilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement quelles sont les sources de données. Il y a les données directement générées par les utilisateurs et utilisatrices, mais il y a également un écosystème, si vous voulez, une galaxie invraisemblable d'applications tierces sur nos téléphones, mais aussi sur des sites web qui intègrent des boutons TikTok, etc., etc., qui, en fait, tous ces dispositifs tiers moissonnent des données. Et après, étant donné justement la force de frappe publicitaire, vous avez également beaucoup de gens, autres des entreprises, des publicitaires, etc., qui contribuent aussi des données qu'eux peuvent avoir en plus. Donc on a, en fait, en termes d'origine des données, c'est extrêmement difficile de s'en rendre compte. Et après, le cycle de vie de ces données-là, une fois qu'elles sont chez TikTok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? C'est aussi extrêmement difficile de le savoir. Donc là, ce qu'on a avec Texas et Clover en Europe, on a en fait, Texas, c'est un peu plus avancé. On a un fournisseur américain de solutions technologiques qui est une société privée.
Oracle, oui.
Qui, en fait, va être la courroie de transmission, si on veut, ou le passe-plat des données des utilisateurs et utilisatrices américains sur le sol américain, de TikTok, avec une promesse de contrôle et de audit.
Mais il n'y a pas que Oracle. Je vois, il y a le TikTok US Data Security.
C'est autre chose. Ça, ouais. C'est censé être, en fait, une entité juridique, une personne morale, si vous voulez, comme une succursale, qui assurerait l'aspect gouvernance. C'est-à-dire la façon dont on l'entend, d'après en tout cas les différentes communications publiques, parce que personne n'a vu l'accord dans le texte, et que les annonces datent du 17 ou 19 juin l'année dernière, et depuis, il n'y a rien. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une entité juridique américaine qui va être indépendante de l'entité mère chinoise et qui va en fait s'occuper de prendre les décisions sur le sol américain. Et un prestataire, donc un géant de la technologie américaine, Oracle en l'occurrence, va s'occuper de l'aspect technique. Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va être vraiment structuré ? Quel va être le versant contentieux de tout ça ? On attendra, on verra. Côté européen, donc je me permets de passer la slide.
Oui, allez-y.
Côté européen, c'est encore moins avancé. C'est-à-dire que quand on lit cette annonce-là qui a été faite sur le site de TikTok, en gros, on le lit, on se dit, dis donc, les gars ont découvert en 2023 le règlement général pour la protection de données à caractère personnel, hein, qui est quand même un règlement qui existe depuis, qui est en application depuis 2018.
Qui est européen, on le rappelle, oui. Juste, voilà. Qui est...
et dont, en fait, 80% du contenu, si vous voulez, est largement inspiré d'un truc qui existait en France avant même que je sois née, qui s'appelle la loi informatique et liberté. Donc, en 2023, il y a cette appli qui a 125 millions d'utilisateurs et utilisatrices européens, qui dit « Ah, moi, la loi, j'ai découvert ça. Bah, c'est marrant, en fait, on m'a dit que c'est obligatoire de la respecter. Bah, je vais peut-être m'y mettre. » Ok, admettons, c'est... Voilà. Il y a plein de complexités liées à ça. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'ils vont faire la démarche d'appliquer à leur façon le RGPD. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment techniquement ça va être mis en place. Encore une fois, qui va assurer tous ces contrôles-là, sachant que, qu'il s'agisse de sécurité ou de protection de données à caractère personnel, il s'agit de processus. Ce n'est pas un état final auquel j'arrive à un moment donné et c'est bon, je n'ai plus rien à faire. C'est une amélioration continue. Donc, comment est-ce que ça va se faire et comment va être résolue la question du compromis entre je veux gagner de l'argent avec toutes les données que je collecte et que je traite et je vais en fait devoir minimiser la collecte et l'utilisation. Minimiser, ça veut dire je ne collecte que ce dont j'ai besoin. Quand vous dites que j'ai besoin pour faire de l'argent, en fait, ce n'est pas une vraie raison. Tout le monde en a besoin pour faire de l'argent, mais ce n'est pas pour autant qu'on le fait. Donc, comment est-ce qu'on va gérer cet équilibre-là? C'est ça qu'on va voir. Donc, je ne peux pas répondre plus que ça à ta question. On peut compléter, etc. Toujours est-il qu'il s'agit beaucoup, pour les deux, d'embryons de démarches. Et avec toute l'actu, avec tous les incidents préalables, avec les papiers de recherche qui sont sortis, etc., qui, en fait, et avec le statut très particulier qu'a TikTok, qui est à la fois une appli réseau social et une appli de publication de vidéos, on n'a pas, en fait, un objet numérique comme ça. YouTube, c'est un endroit où on met des vidéos. Ce n'est pas un réseau social en plus. Il y a des commentaires, mais c'est pas ça qui en fait un réseau social. Donc on a un objet en fait qui est très particulier, qui a un héritage, on va dire géopolitique particulier.
Alors, on va peut-être on développera voilà. Un peu plus.
Et donc c'est pour ça que j'ouvre en fait et je voilà. Avant de te redonner ça, la parole. Ça. Et dont en fait les engagements pour l'instant sont perfectibles.
Merci beaucoup, Reina. Alors, Bernard Benhamou, je vous vois trépigner à ma droite. Vous avez envie de rebondir, on vous écoute.
Trépigner est un grand terme. Bonsoir à tous. Et merci effectivement pour cette invitation et merci effectivement pour cette présentation initiale. Nous avons peu de temps, donc je vais être direct. Je crois effectivement que les comportements qui ont pu être détectés et analysés par rapport à la société TikTok, qui lui ont valu effectivement cette audition au Congrès que vous aviez, à fort juste titre, rappelé comme étant assez musclé, et peut-être même pour une rare fois consensuelle parmi les républicains et les démocrates sur le mode, effectivement, vous unissez, c'est ce qu'a dit le président de séance à la toute fin, vous unissez quasiment tout le monde contre vous. La particularité, c'est qu'effectivement, alors là, je reviens, et c'est important qu'on ait un débat, il y a eu des cas d'utilisation politique des données de TikTok par la société, dont une qui a été documentée très bien, je vous recommande l'article, dans le Guardian, je peux même vous donner la date, c'est en décembre dernier, c'était le 23 décembre dernier, sur l'utilisation qui a mené à des démissions forcées de cadres de la société, y compris en Chine, suite au ciblage et à la géolocalisation de journalistes. Le but étant, paraît-il, de découvrir quelle était la source de fuite. Et donc, effectivement, la société, par la suite, s'en est mordu les doigts, puisque les responsables de la société se sont rendus compte que ça détruisait toute une partie de son narratif, qui consiste à dire, ce qui a été rappelé d'ailleurs par les autorités et le Parti communiste chinois il y a quelques semaines, nous ne demanderons jamais transmission des données. Pas de chance, ça s'est fait, ça a été prouvé, et ça a donné lieu effectivement à des démissions forcées, à des départs, aussi bien d'ailleurs, enfin dans les différentes branches de la société. Donc le fait de penser, là je vous en parle en tant qu'ancien responsable gouvernemental, comme j'ai eu l'occasion de le dire et de répondre à un article sur ce sujet, quand on a un outil aussi fabuleusement puissant, tout à l'heure Baptiste rappelait 1,7 milliard d'utilisateurs l'ayant téléchargé, alors je pense qu'un petit peu moins d'utilisateurs réguliers, mais on doit être au-delà du milliard. Par définition, un outil d'une telle puissance entre les mains d'un pays, dont il faut quand même rappeler qu'il n'est pas démocratique, ne peut pas être laissé de côté. C'est impossible. Certains ont beau jeu de mettre dos à dos les États-Unis avec leur loi extraterritoriale qui leur permet de demander les informations aux sociétés américaines partout dans le monde, pas uniquement aux États-Unis. Je pense que ce n'est qu'une partie du problème. Là, la particularité, c'est qu'effectivement, on a un outil qui a connu une ascension fulgurante, dopé en particulier, c'est ce que me rappelait Baptiste, par la pandémie, où les gens se sont massivement penchés sur l'outil, au point effectivement que maintenant, il est un réservoir et un outil à percevoir de l'information sur la personne. Et quand je dis percevoir de l'information, chaque choix que vous effectuez lorsque vous... je ne vais pas employer les termes anglais, mais enfin bon, lorsque vous faites défiler les vidéos, c'est un choix qui est enregistré et analysé. Les vidéos que vous partagez, c'est en ce sens-là que c'est aussi pour partie un réseau social, les vidéos que vous partagez sont analysées. Le temps que vous passez dessus est analysé. Certains pensent même que la caméra peut être activée sans que la personne le voie pour effectivement analyser ses expressions faciales.
Mais juste par rapport à d'autres réseaux, pensons à Facebook, pensons à Twitter ou autre, en quoi le ciblage est peut-être plus performant, plus effectif selon vous en fait?
Alors, ce sont des outils différents. C'est-à-dire que, par définition, Facebook est un outil, ça a été rappelé d'ailleurs récemment encore par des officiels, c'est un outil qui prend comme base le lien avec les personnes. Là, au départ, vous n'avez besoin de lien avec personne. C'est-à-dire que vous consultez vos vidéos, vous n'êtes pas obligé de les partager, vous n'êtes pas obligé de déclarer qui sont vos amis, sauf à être imprudent et à laisser l'application faire à peu près ce qu'elle veut dans vos contacts, ce qui serait, à mon idée, une des grandes choses à ne pas faire. Mais bon, voilà. Donc, en gros, la particularité, c'est que comme ce sont des vidéos courtes, vous le rappeliez, alors il peut s'en trouver des longues, mais pour la plupart elles sont courtes, par définition, le temps que vous y passez, le goût que vous exprimez au fur et à mesure, vous pouvez dire telle vidéo ne m'intéresse pas, donc au fur et à mesure vous pouvez recentrer vos goûts, la manière dont elles sont proposées sont parfaitement opaques. Personne ne sait, et je maintiens que même si la société Oracle, qui devait effectivement être associée à l'initiative texane de TikTok, est censée avoir accès au code. Je suis persuadé qu'elle n'aura pas accès à l'intégralité du code et qu'elle ne sera pas en mesure de l'auditer. C'est comme ça que l'on dit. Auditer le code, c'est-à-dire le vérifier, parce que ça prend un temps.
Le code source, on
oui,
est d'accord.
Absolument. Donc, par définition, on a un algorithme qui est opaque. On a des données extraordinairement sensibles sur les individus, leur comportement, leur goût, leurs préférences philosophiques, religieuses, sexuelles, médicales, leur histoire, qui peuvent progressivement être détectées et qui sont, on le sait, des données extraordinairement sensibles si un jour on veut être en mesure de propulser des messages, ce que fait la plateforme, aussi bien effectivement des messages politiques que des messages d'influence par rapport à tel ou tel autre pays, que la Chine évidemment, etc.
Vous pensez à quoi, à la Russie par exemple?
En particulier.
Mais on a des preuves là-dessus?
Ah, le problème, c'est comme c'est une black box, excusez-moi l'expression, comme c'est une boîte noire, par définition, Il faudra une analyse en sciences sociales et en sciences informatiques qui sera longue avant de pouvoir avoir des faits marquants qui puissent être avérés. Mais j'en reviens à la première des questions. Est-ce que cela constitue un risque pour les pays occidentaux, au point que certains envisagent de le bannir, dont l'État du Montana qui commence à passer une loi dans ce domaine? La réponse est simple. Oui. Tout simplement, oui, ça représente un risque. Est-ce que c'est un risque inacceptable et non jugulable? Ça, c'est une autre question. Est-ce que, comme aux États-Unis, il a été question à un moment donné, mais ça ne se fera jamais, de revendre la branche américaine de TikTok à un prix qui serait quand même très élevé, on est aux alentours de 50 milliards, je crois.
À une société américaine.
À une société américaine, c'est-à-dire, en gros, le découplage avec l'actionnariat chinois, ça n'aura pas lieu. Et d'ailleurs, la Chine s'y est formellement opposée. Donc, par définition, aujourd'hui, on est face à un risque qu'il est impossible de quantifier complètement, mais c'est un risque, avec en plus les fonctionnaires de tous les pays européens, des États-Unis, qui ont été obligés de ne plus l'utiliser sur leur matériel de travail du fait des risques de suivi, de géolocalisation et autres. Pour les journalistes, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, c'est vérifier quelles sont vos sources en fonction des déplacements que vous faites. C'est très simple. Donc, vous voyez, fondamentalement, il y a un risque. Et je rappellerai, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la question, que le Parti communiste chinois, à la différence des États-Unis, a une volonté très claire d'éradication de certaines des valeurs qui nous sont chères. La démocratie, la séparation des pouvoirs, la promotion de la société civile et quelques autres broutilles que l'on appelle effectivement république et système de valeurs démocratiques. Donc par définition, mettre dos à dos, comme certains le font, et je l'ai encore entendu sur une interview il n'y a pas longtemps, les États-Unis avec leur loi extraterritoriale qui s'appelle Cloud Act ou loi FISA, enfin les deux, et la Chine, c'est méconnaître la réalité du rapport géopolitique, surtout dans une période qui s'annonce très dure sur le plan technologique, que certains surnomment déjà une nouvelle guerre froide technologique. Donc je voulais pas être...
Voilà, là on a commencé... là où on a mis un peu mon plan complètement en sensu dessous, donc on va s'en affranchir, mais vous avez répondu à une partie de la deuxième question, mais c'était très intéressant. Alain Wang, justement, vous en tant que sinologue, vous êtes beaucoup penché sur ces questions aussi de surveillance de masse en Chine. En gros, ces données, si elles arrivent en Chine, on n'a pas de raison, selon vous, de ne pas croire que le Parti communiste chinois les exploitera. Et comment peut-il les exploiter?
La question, c'est comment. Mais de toute façon, ils ont déjà une organisation un peu générale sur l'ensemble de la population chinoise pour pouvoir récupérer les données, les analyser, etc. Puisque toute entreprise qui est en Chine doit, alors à la différence justement du RGPD, parce qu'ils ont mis en place un PIPL, qui ressemble au RGPD, mais en réalité la seule différence qu'il peut y avoir, c'est que les entreprises sont obligées de transmettre toutes leurs données aux plateformes gouvernementales.
Donc quand Shou Zhechu dit on ne transmet aucune donnée et si on nous le demande, on ne les transmettra pas.
C'est obligatoire.
Voilà, c'est obligatoire.
Il ne peut pas faire autrement. Alors, et puis en plus, ce qu'il faut quand même considérer aussi, c'est qu'on a deux formes. Bon, c'est vrai qu'on a ce fameux ByteDance, il y a aussi Douyin. Donc on a une application en Chine qui est extrêmement contrôlée sur tout ce qui est dit à l'intérieur, qui promouvoit plutôt la pensée du président Xi Jinping tel qu'il est en ce moment, c'est-à-dire un dictateur, on va dire, quand même en place. Donc on est loin d'être dans
Douyin, juste, je précise, c'est vraiment la jumelle de TikTok.
De TikTok.
Mais version chinoise, avec toute la censure qui
s'en... Que pour les Chinois, en Chine. Alors là aussi, peut-être aussi le réveil des Occidentaux et des Américains a été provoqué par la reprise en main du secteur de la tech par Xi Jinping depuis les années 2020. D'ailleurs, le patron Zhang Yiming, l'ancien patron de ByteDance, a été viré de son siège et il n'est pas tout seul d'ailleurs. On connaît très bien Jack Ma, par exemple, le patron d'Alibaba, qui actuellement continue ses jours, on va dire, au Japon, avec 6% de Ant Financial, qui était la partie financière d'Alibaba. Mais on pourrait parler de pratiquement tout.
Mais on sait pourquoi il était viré, comme vous dites, la Zhang Yiming, on le voit ici en image. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je pense que il faut regarder peut-être un peu plus global, c'est qu'on est face à des acteurs qui étaient des acteurs du privé et qui certainement commençaient à rechigner un petit peu sur la tutelle du parti et les directives qui étaient données. Puis sentaient peut-être venir la reprise en main par Xi Jinping. Donc je suppose que tous ces gens-là, mais il n'y a pas que dans ce domaine, on a beaucoup parlé de cette fameuse joueuse de tennis, des acteurs de cinéma. Donc, c'est toute une génération, je pense, en Chine qui était en train de réfléchir véritablement de ce se couper de la tutelle du parti, peut-être de mettre en place quelque chose en opposition. Je pense que c'est ça qu'il faut, voir. Donc, le dernier en date qui a disparu, c'est un monsieur qui s'appelle Baofan, hein, qui est quand même très très important, puisque c'est le monsieur qui avait créé son entreprise, c'était Capital Renaissance, qui donc a permis justement à tous ces grandes latex chinoises, hein, les BAT, Baidu, Alibaba et Tencent, véritablement de grandir et de pouvoir être cotés sur des bourses étrangères, entre autres américaines. Là aussi, les Américains, à un moment donné, se disent, bon, ils viennent lever des fonds chez nous pour construire des choses qui ne sont pas tellement favorable à nos pays, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc on est dans aussi dans une remise en question, je dirais, assez largement de tout ce qui s'est passé ces dernières années dans la relation, on va dire, technologique entre les États-Unis et la Chine. Il faut savoir aussi que la plupart des personnalités qui ont créé des entreprises de technologie en Chine ont été formées aux États-Unis en grande partie. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions, puisque le régime chinois se met en position de devenir la première puissance mondiale d'ici 2049, que ce soit sur le plan militaire, technologique, culturel et autres, donc en opposition aux États-Unis. Donc, c'est assez normal, je pense, que les Américains réagissent. Hein. Donc, pour moi, c'est...
Alors, je continue à ne pas respecter le plan que je m'étais fixé. Là, ce qu'on vient de dire, Reina, est-ce que ça vous inspire des choses ? Je pense aux dangers que soulignent, par exemple, Bernard Benamou et Alain Wang aussi. Est-ce que vous voyez une différence ? Alors, on sort un peu du script, hein, mais est-ce que vous voyez une différence entre le fonctionnement de TikTok et celui de Facebook, de Twitter ? Quelles seraient les spécificités de TikTok, s'il fallait les caractériser ?
J'ai combien ? 30 minutes ? 4 heures ? Non, c'était pour une amie. Alors, il y en a plein. Déjà, il y en a vraiment plein, en fait. Mais mais je suis en train de chercher, parce que j'étais en train de revérifier le truc sur People, justement, qui, contrairement au RGPD, si vous êtes dans les sanctions, vous allez en prison, en fait. En Europe, on ne fait pas encore ça. Voilà. Alors, il y a des différences quant à, effectivement, ce qui est fait et notamment le type de données qui sont collectées avec un plugin là qui est devenu donc une fonctionnalité complémentaire, technique complémentaire, voilà, qui est CutCap, c'est ce que je cherchais, CapCut, pardon, qui en fait vous permet, en prenant votre vidéo, de faire en fait avant-après de comment je serai quand je serai âgé. Et en fait, donc vous avez un tas de vidéos, le développement de ce plugin est fulgurant en termes d'utilisateurs. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ce n'est que des données biométriques. Parce que la reconnaissance faciale, ce n'est que des données biométriques. Qui, au sens, si on regarde encore une fois le RGPD, ce sont des données sensibles au sens du RGPD. Article 9. Pour les gens qui vont vraiment aller vérifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'impact de ces données, si elles sont compromises sur l'individu en question, peut être extrêmement fort et peut porter énormément à conséquences vis-à-vis notamment des droits et libertés fondamentaux de cette personne-là. Parce que le RGPD, en fait, derrière, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut appliquer ça, machin, tout ça. En fait, c'est un texte qui défend le droit fondamental à la vie privée. Et c'est ça, en fait, et c'est cette histoire de, par exemple, données biométriques, entre autres, qu'on ne retrouve pas sur un Twitter, sur un WhatsApp.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec des données biométriques ? Est-ce que vous avez des exemples ?
Plein de trucs.
Qu'est-ce qu'on peut redouter ?
Plein de trucs, votre téléphone, vous l'ouvrez avec la reconnaissance faciale.
Mais comment ça peut être utilisé, ces données, par des acteurs tiers ? Quel est le risque, en fait ?
Même risque avec plein de choses. En fait, avant de vous répondre à ça, ou plutôt, je vais laisser votre imagination galopante faire le reste. J'ai deux infos sur le sujet. La première, c'est pensez bien aux données biométriques comme des données qui sont constitutives de vous, physiquement, matériellement. Votre adresse mail, votre mot de passe, demain, si quelqu'un qui veut vous vendre, je sais pas, les chaussures de vos rêves que vous avez jamais demandé, vous changez d'adresse mail. Votre date de naissance, vos empreintes digitales, votre visage, votre rétine, enfin le scan rétinien, votre empreinte de la main, qui est aussi une donnée biométrique, ça, vous ne pouvez pas changer. Enfin, vous pouvez, hein, mais voilà, ça demande un peu d'argent, quelques connexions, par exemple, pas très fréquentables, etc. Et beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est Europol, entre autres, a annoncé il y a même pas 3 semaines le démantèlement d'un marché de revente de données, de profil en fait complet de gens numériques, j'entends, qui s'appelait Genesis Market et qui en fait était le premier et le plus grand marché de revente de profil complet d'empreinte numérique de quelqu'un. Vous avez en fait, nous on va surtout voir passer des adresses mail, des mots de passe, des numéros de téléphone, des numéros de carte bancaire, des comptes PayPal et des choses comme ça. Sur Genesis, en fait, vous aviez tout pour des dizaines, voire de centaines de milliers de gens. C'est-à-dire, ça va de votre adresse, toutes vos adresses, mots de passe qui existent, jusqu'à potentiellement vos empreintes digitales. Si vous vous êtes fait génotyper pour connaître votre susceptibilité au diabète ou parce que vous avez une cousine distante qui vient de se manifester pour l'héritage, il y avait jusqu'à ces détails-là sur Genesis, qui étaient du coup revendus entre des cyberméchants plus offrants, c'est-à-dire à plein de gens. Donc, je laisse votre imagination galopante faire le lien entre ça, sachant que, et je vous donne un dernier mot qui n'est pas traduit en fait jusqu'à présent en français, qui s'appelle le future proofing. Ça veut dire quoi? C'est essayer de prévoir comment les différentes fonctions pourraient évoluer et comment en fait un truc que j'anticipe sympa, bien, intéressant, typiquement savoir à quoi je rassemblerai quand j'aurai l'âge d'être à la retraite, 80 ans, vu comment c'est parti. Pardon, j'ai promis d'être gentille. Donc, un truc sympa, une fonctionnalité sympa, à quoi je rassemblerai quand je serai à la retraite, comment est-ce que ce truc-là pourrait être détourné? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut être parano et voir le mal partout, etc. Mais l'angélisme n'est pas pour autant, en fait, la solution. Et on a, et je finis là-dessus, je te redonne la main, on a une démarche qui est, à mon sens, préoccupante, qui est de se dire que, en fait, puisque c'est beaucoup d'immatériel, et puisque, en fait, c'est soi-disant de bonnes intentions, que, en fait, tout le monde nous veut du bien. On n'aurait jamais cette démarche-là si demain on allait au supermarché et en fait on n'avait pas toutes les contraintes qu'on a sur l'alimentaire et des trucs qui sont les dates limites de consommation. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, vous achetez vos yaourts, vous pouvez même pas ne pas regarder la date de péremption parce que vous savez qu'on vous vend pas des trucs périmés depuis 3 mois. On n'a pas un équivalent de cet ordre-là avec le numérique. On commence à en avoir. Mais pour l'instant, on l'a pas. Et donc la question, c'est pour ça que je dis, je laisse ça à votre imagination, parce que l'intimité, ce qui est privé pour moi, c'est pas la même chose que pour vous, pour Bernard. Enfin, ça appartient à chacun de savoir ce qui lui est précieux. Et donc les risques, on a des modèles de risques différents. Moi, je n'ai pas le même que un journaliste. Qu'un professeur sinologue qui vient de dire que le gouvernement chinois est un gouvernement autoritaire, etc., etc. Donc, cet équilibre, et qu'est-ce que je donne de moi, c'est à chacun, chacune de décider. Et en fait, la question qui se pose, c'est comment on s'assure que les gens à qui on confie ces données-là font justement ce qu'ils disent qu'ils feront.
Alors, moi, j'ai une imagination extrêmement limitée. Vous m'aviez dit d'imaginer des récupérations. Je crois que vous avez des exemples concrets sur le biométrique, par exemple.
J'ai peut-être une imagination dans ce domaine, mais j'ai surtout, malheureusement, des connaissances sur ce qui a déjà été fait. Et donc, il faut avoir en tête ce que rappelait Reina à très juste titre, que les données personnelles rentrent dans différentes catégories. Alors là, on parlait de données sensibles, médicales, sur les réactions des gens. Vous avez un livre d'un historien qui s'appelle Yuval Harari qui disait « Si on est capable d'utiliser tous les capteurs que l'on a autour de nous pour détecter nos émotions, on sera capable de nous manipuler comme jamais aucun dictateur n'aura rêvé de le faire. » Et je pense effectivement que, d'une part, il était question de ce marché noir des données personnelles dont les données médicales sont de très loin les plus valorisées au monde, avec chaque profil médical se revendant plusieurs centaines d'euros ou de dollars. Et derrière, effectivement, il faut comprendre que quand on veut influencer des gens, si on sait à quoi ils réagissent, si on sait effectivement quelles sont leurs vulnérabilités, on est capable de les influencer à l'échelle individuelle puis à l'échelle collective. Tout à l'heure, Baptiste posait la question, peut-on imaginer de la propagande, de l'ingérence ? Oui, oui. Je rappelle, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers de cette affaire, que l'affaire Cambridge Analytica, donc qui a été à l'origine d'un des principaux scandales concernant Facebook il y a quelques années, était liée à la manipulation et à l'ingérence, cette fois-ci ce n'était pas la Chine, c'était la Russie, dans les processus électoraux pour faire élire Trump. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on a un tel trésor de données. Reina parlait de ces profils. On parle des courtiers en données. En anglais, on parle des data brokers qui réunissent, entendez bien, plusieurs dizaines de milliers de paramètres par individu. Je rappellerai qu'un journaliste du Financial Times a fait une étude sur eux et il a détecté que dans son profil, il a demandé à voir son profil sur l'un de ses courtiers en données. Je crois que la société s'appelait Axiom. Et il a détecté, enfin, il a vu que dans son profil, il était noté comme étant à risque pour une maladie du rein. Il a dit « je ne savais pas ». Il est allé voir un médecin qui le lui a confirmé. C'est-à-dire que le profil médical de cette personne était plus précis que ce qu'elle savait sur ses propres maladies. Donc il faut bien avoir en tête que ça peut avoir un intérêt évident pour un assureur, en termes effectivement de cotisation, mais aussi pour un parti politique, pour essayer de viser effectivement un message en période électorale sur « Ah, vous avez telle pathologie, nous pourrions avoir telle ou telle action qui vous serait bénéfique, etc. » Ou au contraire, faire peur, ce qui est un ressort classique de la propagande, pour essayer effectivement de faire en sorte que les gens infléchissent leurs opinions dans tel ou tel domaine. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que jamais l'expression « le savoir et le pouvoir » EEST n'a été aussi juste. Et donc plus vous rassemblez d'informations sur une plateforme avec un gouvernement qui a un intérêt objectif à utiliser ces données, plus vous prenez un risque. Et effectivement, la question qui se posera à nous, c'est de savoir jusqu'où ce risque est acceptable, d'où les premières réponses qui ont été effectivement celles des Européens sur l'interdiction de l'usage par des parlementaires puis par des fonctionnaires, pareil aux États-Unis. Est-ce qu'on ira, un peu comme le Montana, vers une interdiction totale dans ce domaine? Ça, c'est encore difficile de le dire.
Montana, 1er janvier 2024, donc État américain, le premier où apparemment TikTok sera interdit.
Banni.
Voilà, banni.
Donc là encore, on va voir effectivement si la chose va, entre guillemets, faire tache d'huile au niveau fédéral. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que en plus de cette guerre froide qui est réelle, les États-Unis ont mis sous embargo, effectivement, monsieur le rappelait tout à l'heure, ont mis sous embargo des technologies critiques, dont les technologies d'intelligence artificielle, qui sont très largement utilisées dans ce genre de cas. Par définition, l'hégémonie, effectivement, ne leur convient pas, et on peut le comprendre, l'hégémonie que pourrait prendre la Chine dans ces domaines, mais d'un point de vue politique, sachant qu'ils ont été échaudés par les événements et des élections avec Cambridge Analytica, et malheureusement et surtout d'une tentative de coup d'État qui s'appelait l'invasion du Capitole le 6 janvier, par définition, ils sont conscients qu'il y a un risque aujourd'hui comme jamais on l'a imaginé auparavant. Auparavant, on pensait compétition, on pensait protection des données personnelles. Aujourd'hui, on pense stabilité politique, ingérence, capacité effectivement d'intervenir dans les phénomènes électoraux et dans les processus démocratiques. On est sur une toute autre échelle du risque politique pour les États.
Justement, Alain Wang, j'ai plusieurs questions à vous poser. Avant d'enchaîner sur l'aspect plutôt géostratégique, géopolitique, une question. Ingérence des données qui sont mises dans les mains du gouvernement chinois, l'ingérence dans les affaires extérieures, les ingérences politiques, les ingérences sur des élections, c'est quelque chose que vous jugez crédible, vous, de la part de la Chine ?
Alors, crédit, pour l'instant, ils ne l'ont pas beaucoup fait, mais c'est forcément, à un moment donné, quand même l'objectif. Enfin, juste rappeler une petite histoire. Hein, quand la Chine avait offert le siège de l'OUA, de l'Organisation de l'Unité africaine, les gens à l'intérieur du bâtiment, tous les soirs, se disaient, c'est quand même assez bizarre, tous les ordinateurs se mettent à fonctionner tout seuls, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils ont posé la question, bien sûr, aux Chinois, et les Chinois ont dit, vous inquiétez pas, on fait une sauvegarde à Shanghai. Donc, bon, quand on dit ça, évidemment, il y a forcément déjà des idées derrière la tête de capter des données qui sont importantes et stratégiques, d'autant plus que la Chine s'étend véritablement sur l'ensemble de la planète, donc qu'elle recueille des données, ça me paraît important. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est qu'à l'inverse, je crois qu'on a assez peu de capacité d'aller récupérer des données en Chine, parce que le pays est quand même fermé, donc on est dans un China net. Et donc, dans quelque chose qui aujourd'hui est très difficile à pénétrer, puis avec des lois qui sont extrêmement dures. Hein. Les Chinois ont des lois beaucoup plus dures que nous avons, nous, sur ce domaine-là, qui peuvent mener à des arrestations et peut-être même des condamnations à mort pour espionnage, etc. Donc, ils ne blaguent pas à l'intérieur du pays. Donc, c'est ça aussi, le manque de réciprocité entre ce qu'ils font à l'extérieur et ce qu'ils... et une autre capacité, nous, d'aller à l'intérieur. Bon, il faut rappeler qu'il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas tout ça est interdit, avec quand même une Chine qui a une idée du World Wide Web, hein, ce qui était quand même l'origine de l'idée d'avoir des informations qui traversent le monde. On est plutôt dans un channel net dans lequel, véritablement, on ne veut pas que les informations rentrent comme les informations sortent. Donc ça, c'est ce que la Chine a posé comme Internet souverain avec des frontières. Ils l'ont posé en plein Covid. À l'époque, c'était un responsable chinois qui était à la tête de l'Union internationale des télécommunications, qui est un organisme de l'ONU. Et il a posé comme principe ça, c'était en mars 2020. Et bon, bien sûr, ça n'a pas été accepté, mais je suppose qu'aujourd'hui, on sait très bien que la Chine intervient dans pas mal de pays. On estime une cinquantaine de pays où ils aident ces pays à mettre en place cette forme d'Internet. Bon, bah, le Runet, hein, dès 2015, M. Poutine s'y est intéressé. Il a accéléré un peu, apparemment, depuis la guerre. Mais on peut parler du Cambonet, on peut parler au Cambodge, au Myanmar, dans des tas de pays. Donc la question est de savoir, est-ce que là aussi encore, le monde est en train de se découper en deux blocs, parce que la Chine, amenant son matériel, évidemment, elle a la capacité aussi de récupérer les données de ces pays. Donc, au-delà d'être le chef de file d'un ensemble qui devient dangereux, on va dire, pour les pays démocratiques et l'Occident.
D'un point de vue plus large, donc là, on parle de logique de bloc. On enchaîne sur la troisième partie. Il y a aussi est-ce qu'on peut dire qu'il y a une guerre aussi économique, technologique dans cette...
Évidemment. Quand la Chine on parle de dictature en Chine, hein, quand elle vend un système de contrôle de masse de la population, elle met en avant toutes ses entreprises. Ça va de Hikvision pour les caméras, on va aller sur du Huawei pour autre chose, du ZTE pour autre chose, etc. Donc il y a véritablement derrière un enjeu économique qui est majeur.
Et juste... aujourd'hui, donc vous estimez qu'on... Alors, non, ce qui est intéressant quand même, parce que c'est aussi le timing, le fait que les États-Unis agissent très fort en ce moment. On s'est parlé au téléphone avant la conférence, vous m'avez donné une comparaison un peu avec l'histoire du ballon, je me rappelle. Enfin, voilà, pourquoi maintenant? Pourquoi une telle... parce qu'on a l'impression que parfois ça vire presque à l'hystérie. Enfin, alors, je ne vais pas parler de McCarthyisme, mais parfois on a l'impression que chaque opportunité est saisie pour attaquer côté américain. Je ne fais absolument pas la défense du régime chinois. Mais pourquoi ce timing, en fait?
Non, non, on ne va pas défendre le régime chinois. Non. Pas moi. Mais il faut observer ce qui se passe. C'est vrai que les Américains sont dans une position de confrontation. Donc, dans cette position de confrontation, soit on laisse du temps et on laisse du temps à la Chine de grandir sur le plan, par exemple, de la mise en place des semi-conducteurs. Ils ont beaucoup de retard, les Américains sont très bloqués. À un moment, ils rattraperont le retard. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si on laisse véritablement les Chinois progresser, ça veut dire qu'aussi sur le plan de l'armement, ça va être de plus en plus efficace. Si la Chine devient trop forte, évidemment, les Américains vont se retrouver face à quelque chose qui va mener véritablement à un conflit qui sera cette fois-ci mondial. Mon idée, hein, je peux me tromper, c'est qu'est vrai que quand on regarde en ce moment, les Américains prennent plein de prétextes. C'est-à-dire les ballons, en ce moment, c'est les grues. Les grues qui sont dans les différents ports où les Chinois ont des participations importantes. Donc on dit que les grues sont équipées de matériel de surveillance, de tout ça, etc. etc. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça monte. Mais je me demande si du côté américain, on n'attend pas peut-être d'avoir un petit, une petite déflagration militaire qui permettrait de voir où en est la Chine sur le plan militaire, parce qu'on n'en sait rien, ils ont fait la guerre depuis longtemps. Et puis à partir de ce moment-là, de toute façon, pour l'instant, je pense que les Américains auront largement le dessus. Donc ça peut affaiblir la Chine aussi, sur le plan international, par rapport aux gens qui la suivent. Hein. On parle beaucoup de l'initiative de la ceinture et de la route, ce que les journalistes parlent.
Et les routes de la soie. Ouais.
Ben, c'est un mauvais terme, hein. Faut oublier ce terme-là. Mais l'ICR, c'est une organisation internationale avec beaucoup de départements sur la santé, sur le cyber, sur etc., etc. Donc avec un certain nombre de pays qui suivent. Et donc, il faut faire attention, ce n'est pas que de l'économie. Donc il y a une influence chinoise qui grandit à travers toutes les organismes qui sont construits derrière. Et c'est ça que les Américains regardent aussi, à mon avis. La peur que véritablement, l'OCS, hein, qui est aussi l'Organisation de coopération de Shanghai, même si on a tendance à nous faire croire que c'est que de l'économie, mais pour l'instant, moi, je ne vois que des manœuvres militaires à Vostok, en Afrique du Sud et ailleurs, avec des pays qu'on aime beaucoup, comme l'Iran, les pays d'Asie centrale, etc., toutes les grandes démocraties du monde, comme je dis souvent. Donc, attention, y a des enjeux derrière qui sont très, très importants.
Reina Stamboliska, vous me parliez aussi au téléphone de dimension civilisationnelle, de vision du monde différente entre la Chine et d'autres pays, notamment autoritaires, vis-à-vis du monde occidental. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ?
C'est ce qui vient d'être dit. Hein, on dépasse la préoccupation d'interférence ou d'ingérence telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Il ne s'agit plus de ferme à troll qui invente des news de toutes pièces, qui arrange un peu les titres, qui sont un peu câlins avec la notion de vérité, etc. Il ne s'agit plus de ça, en fait. Il s'agit, et ça, je parle sous votre contrôle, mais il y a une vision, en fait, du long terme en Chine qui n'existe plus, en fait, en Occident. C'est en Occident, ce qu'on fait, c'est on fonctionne par à-coups. Et alors que ce n'est pas du tout cette approche-là en Chine. Et nous, on est habitués, en fait, au levier de soft power américain, etc., au film, aux Américains qui apportent la démocratie au coup de talon dans des pays pas toujours, qui ne sied pas toujours à la représentation américaine de la liberté et de la démocratie. Mais en fait, on est beaucoup moins habitué à voir cette vision civilisationnelle-là du côté chinois. Et quand vous voyez la manière dont est perçu le monde et le rôle, en fait, des humains dans le monde face à des grands enjeux, etc., c'est là où, en fait, il y a une fracture qui s'opère. Et c'est pour ça que les craintes que beaucoup de gens, et c'est sorti de façon très vive lors de l'audition du patron de TikTok, mais aussi ça commence à sortir de cette façon-là côté européen, c'est que on a en fait une menace que beaucoup de gens commencent à appeler cognitive, c'est-à-dire qu'on est vous avez même des gens qui vont vous dire en ciblant les jeunes et en présentant des contenus d'une manière éditorialisée par le biais de leviers algorithmiques, intelligence artificielle et tout ce que vous voulez. En fait, ce qu'on fait, c'est on va chercher et à influencer les forces vives, voire les forces productives de certains coins du monde. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui est assez présent, et je parle toujours sous votre contrôle, qui est assez présent dans la doctrine chinoise et qui, en fait, n'existe absolument pas dans les doctrines occidentales. Mais alors, absolument pas. À tout ça vient se coller cette histoire de course à l'hégémonie technologique, d'innovation, de technologies de rupture émergente et tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, je disais que l'objet TikTok, en fait, c'est pas du tout juste une appli où des gens font des vidéos, ils dansent ou ils cuisinent ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. Et dès qu'on, c'est ce que je vous ai dit au téléphone, dès qu'on a en fait, on a pris un fil et on essaie en se disant, je vais tirer la pelote, ça va aller. En fait, j'ai plein d'autres pelotes qui tombent derrière. Parce qu'on a l'aspect civilisationnel, on a l'aspect technologique, et on a derrière l'aspect aussi, cette fois technique, si on veut, juridique, etc. etc. Donc, et on a aussi, et c'est probablement la première fois, et bon, les Cambridge Analytica et Cone n'y sont pas pour rien, mais c'est quand même la première fois où on met en avant le rôle des utilisateurs, de tous les gens, en fait, qui font que TikTok existe, au final, et qui, en fait, pour la première fois, ils étaient extrêmement présents dans l'audition américaine du patron là, de TikTok, où, en fait, c'est le rôle de l'appli sur la santé mentale, sur l'image de soi, sur la propension de se faire vacciner, sur, en fait, plein de choses. Vous cherchez TikTok santé mentale sur votre moteur de recherche favori. On a rarement fait autant de papiers de recherche sur l'impact technologique sur la santé mentale des gens, sur un objet, un ovni technologique qui existe depuis juste 5 ans, en fait, dans sa forme actuelle, j'entends. Et qui brasse des milliards, un peu plus d'un milliard d'utilisateurs de par le monde. Donc, et c'est aussi, on voit aussi avec les bisbilles côté américain, mais aussi l'Inde, déjà, ça fait 3 ans que l'Inde a interdit TikTok. Donc, on a un précédent qui est là. Et l'Inde, disons, et la Chine sont loin d'être des grands amis devant l'éternel. Il y a cet aspect-là aussi. L'Inde est aussi un terreau propice pour énormément d'innovations technologiques. Parce que, mais en Inde, par exemple, WhatsApp, Facebook sont extrêmement présents. Mais vous avez l'aspect aussi qui est que on commence à avoir la situation où la sécurité commence à primer sur le business. Jusqu'à présent, c'était non, mais attends, on va pas s'embêter. Business first, et puis on verra le reste. Et là, on se retrouve dans la situation inverse. Et on l'a vu aussi sur Twitter, d'ailleurs, quand Elon Musk est arrivé. Et on le voit, en fait, il y a beaucoup, une préoccupation beaucoup plus importante de « je peux me faire sanctionner, ça risque de nuire à mon image, il y a un risque tout court sur mon business, parce que aussi, je ne sais pas si je deviens dépendant de ce canal comme... marketing, pub, etc. Ben en fait, quand ce sera bloqué demain, en fait, qu'est-ce qui se passe avec mon business ? Et donc, on a vraiment cet aspect qui vient se greffer sur le reste. Et pour rebondir et reboucler peut-être sur cette histoire...
Après, il faudra vraiment qu'on passe aux questions.
Oui, non, mais je suis en train de regarder mes notes en même temps pour les différents bullet points et je vous lance des choses pour la discussion après. On a, en fait, quelque chose qui est arrivé... notamment avec Cambridge Analytica et depuis l'élection 2016 aux US, qui est la génération de messages publicitaires, en fait, de pubs politiques, de campagnes, pas ciblées, c'est ciselé, où, en fait, un gars de la campagne de Trump disait qu'ils avaient généré... plus de 50 000 versions d'un même message. Et donc, on passe, en fait, et c'est là où on a cette histoire de civilisationnel, et je rebondis sur ce que tu disais, Bertrand, tout à l'heure, que jusqu'à présent, notre rapport à la liberté d'expression, c'est un humain parle à un autre humain. Et dans quelles conditions ces humains-là peuvent se parler, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ? À partir du moment où on a, en fait, une manipulation et une création de messages politiques, civilisationnels, qui régit d'une manière ou d'une autre notre implication dans la vie de la cité, à partir du moment où on a cette génération-là par des machines, il se passe quoi avec la liberté d'expression ? Et c'est pour ça que des chercheurs ont nommé ça l'économie de la liberté d'expression, parce qu'on a aussi énormément une cascade, en fait, de considérations autres qui viennent avec ce changement-là. En fait, c'est plus des humains qui parlent à des humains, c'est des machines qui parlent à des humains. Donc, comment est-ce qu'on continue à faire société et à s'inscrire dans la vie de la cité quand je ne sais pas si la campagne face à moi a été écrite par quelqu'un qui a des idées et des valeurs à défendre, ou si c'est fait pour que ça me plaise à moi, parce que je préfère le rouge au bleu. Et je te redonne la main.
Ok, alors, une minute. Alain Wang, une minute, Bernard Benhamou.
Peut-être même pas une minute, simplement. Faut voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de démocratie, de pays autoritaire. Il y a eu un rapport qui a été fait par l'Institut V démocratique, donc ils font ça tous les ans, qui est de l'université suédoise de Göteborg. Et donc, ils estiment aujourd'hui que 78% de la population mondiale vit sous un régime autoritaire, 28% sous un régime dictatorial. Donc, c'est quand même... Et on revient à un État où c'était avant 1982, c'est-à-dire période encore de la guerre froide. Puis un autre point, pour aller dans l'autre sens, c'est aussi... Bon, c'est vrai que on critique beaucoup les Américains, hein, comme on disait tout à l'heure, mais en même temps, bon, les États-Unis ont mis en place une déclaration sur le futur de l'Internet le 28 avril 2022, qui a été signée pour l'instant par 56 États, qui, contre le modèle chinois, évidemment, pour protéger les droits de l'homme, l'usage privé des utilisateurs, la libre circulation de l'information et un encadrement de l'économie numérique. Donc il y a aussi une contre-proposition qui arrive, on verra ce qu'elle deviendra, mais faut pas être désespéré.
On va prendre vos questions, un mot pour vous Bernard Benhamou, puis vous pouvez réfléchir aux questions que vous voulez poser en attendant.
Là aussi, je vais essayer d'être court. Le mot n'a pas été prononcé, donc je souhaitais que le mot crédit social soit prononcé pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas en tête. C'est un outil de notation qui a été mis en place auprès de l'ensemble de la population, enfin qui commence à être mis en place auprès de l'ensemble de la population chinoise, avec effectivement des répercussions en fonction du comportement financier, mais aussi politique, social, individuel, au point que plusieurs dizaines, je pense que le chiffre date d'il y a 2 ou 3 ans, donc je pense qu'il doit être bien plus élevé aujourd'hui, plusieurs dizaines de millions de personnes étaient interdites de train, d'avion, d'accès au crédit et de toute forme, effectivement, de capacité de promotion sociale du fait d'une mauvaise note de crédit social. Et je précise qu'évidemment, sans prendre à la politique gouvernementale, vous faites dégringoler dans votre score de crédit social, ce qui fait effectivement, au dire même du Conseil d'État chinois, le but est de rendre les personnes... qui seraient effectivement suspectes dans ce domaine, de les rendre quasiment insolvables, de les mettre en faillite, de les faire devenir des parias au sein même de la société chinoise. Donc il faut bien avoir en tête que ces mêmes outils, dont je précise qu'Alibaba était l'un des outils utilisés pour mettre en place le crédit social, sont utilisés effectivement aussi dans l'analyse politique qui peut être faite des mouvements de population, des mouvements idéologiques, etc. Deuxième chose, un autre aspect qui n'a pas été évoqué, je crois, c'est qu'il y a une poussée massive au niveau des institutions onusiennes. J'ai eu le plaisir de travailler auprès d'un ambassadeur aux Nations Unies. Une poussée massive sur l'éducation numérique. Les Chinois sont en train de développer à la fois les technologies, les normes et les standards à l'échelle effectivement de la planète entière. Donc en proposant effectivement ces normes à l'adoption pour l'ensemble de la planète, en poussant leurs solutions à la fois matérielles et logicielles dans l'ensemble en particulier de ce que l'on appelle maintenant le Sud global, avec la possibilité par la suite d'influencer un système en ayant bien sûr à l'intérieur, je dirais, de l'ADN de ces technologies, une centralisation, un contrôle, une censure qui sont bien au-delà de ce qui existe chez nous. Et enfin, je rappellerai, puisque Reina évoquait la vision long terme des dictatures, parce qu'on peut le dire comme ça, c'est évidemment beaucoup plus simple de planifier quand vous êtes en climat de dictature, mais ce n'est pas toujours plus efficace. Souvenez-vous de ce qui s'est passé pour la politique zéro Covid. Qu'est-ce qui a fait que ça a ce point dysfonctionné? C'est que les gouverneurs locaux n'osaient pas faire état, et on l'a vu au départ avec l'émergence de la pandémie, ils n'osaient pas faire état des difficultés de peur d'être sanctionnés eux. Et donc cette absence de transparence conduit à prendre de mauvaises décisions. Et donc après de les couvrir par le sceau du secret avec la Chine, 5000 morts en tout dans la pandémie. Chacun appréciera la validité du terme, effectivement, 5000 morts sur une pandémie ayant traversé un pays d'1,4 milliard de personnes. Donc, par définition, il faut bien comprendre que, certes, les Chinois ont un avantage stratégique à pouvoir orienter l'action dans la durée. C'est bien. Alors, je sais que monsieur Wong n'apprécie pas le terme les routes de la soie, OBOR, c'est comme ça qu'on doit dire. ICA. Voilà. Donc, par définition, leur propos est effectivement de s'inscrire dans la durée, mais penser à l'invulnérabilité du mastodonte chinois, tant d'un point de vue technologique, dont on a rappelé les implications militaires, s'il est bien une période qui nous montre à quel point les technologies sont déterminantes dans la guerre, c'est bien aujourd'hui, avec les drones, avec les systèmes d'intelligence artificielle, qui sont devenus effectivement des éléments clés dans la réussite des opérations militaires. Je citerai, et ça ne m'arrive pas souvent, mais je citerai quelqu'un que donc je ne cite quasiment jamais, un certain Vladimir Poutine qui disait « Celui qui sera leader dans l'intelligence artificielle dominera le monde ». Sur ce point-là, et sur ce point-là seulement, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, j'en ai terminé.
Merci pour cette belle citation. On va prendre les questions pour ceux qui en ont. On a une demi-heure, donc on a un peu de temps. Allez-y, monsieur, je vous en prie.
Micro ou pas ?
Mathilda, oui, le monsieur, on va lui donner un micro.
Après tout, ça ne sortira pas d'Internet.
Oui, ça sortira
voilà.
pas d'Internet.
Donc ça reste en vase clos, c'est une bulle sanitaire.
Ça ne fera pas. Merci. Oui, je voulais vous poser la question. Vous savez, ce fameux droit à l'oubli, il a été malmené même aussi, je crois, chez Facebook. Et qu'en est-il chez TikTok ? Vous avez mis une vidéo aujourd'hui. Vous regrettez demain, parce que vous dites j'étais complètement sous quand je l'ai mise. Que pouvez-vous faire ?
Alors, je parle sous le contrôle de mes voisins. Il faudrait regarder ce qu'on appelle, dans un terme barbare, les CGU, les conditions générales d'utilisation, de savoir si vous avez un droit au retrait. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que, concernant Google, puisqu'en fait, le droit à l'oubli a été d'abord mis en œuvre autour de l'indexation des résultats dans Google. Dans Google, il y avait l'obligation, qui posait problème, de la conservation de la donnée, c'est-à-dire l'obligation de faire que non seulement vous étiez déréférencé, mais qu'on devait effectivement supprimer la donnée de référencement. Dans le cas qui nous occupe, ça a été rappelé, je crois, incidemment, il n'y a aucune loi qui s'impose au gouvernement chinois en matière de conservation des données. Et je dirais même mieux, la toute récente loi sur la protection des données qu'ils ont mis en place pour les entreprises chinoises ne s'applique pas à l'État chinois. Donc, par définition, pour eux, c'est ad aeternam. Ce qu'ils possèdent sur vous, ils ne l'effaceront jamais.
Mais attendez, TikTok reste quand même une entreprise qui n'est pas purement chinoise. Et quelles sont les pratiques ? Biden, c'est chinois. En l'occurrence, TikTok est aux îles Caïmans et tu files à l'américaine.
Jean-Baptiste, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une entreprise détenue à 100% par les intérêts chinois.
C'est pas ça. C'est juste sur les paramètres de TikTok, peut-être. La question du droit à l'oubli. Parce que je sais pas si Réna, vous pouvez répondre à ça, sur la question vraiment du paramétrage, en tout cas, la façade.
Alors, déjà, j'aimerais bien corriger 2-3 petites choses. Dans le RGPD, vous avez des articles qui vous donnent des droits fondamentaux, droit à l'information, droit à la modification, droit d'accès, et droit à l'oubli fait partie de ça, droit à la suppression, etc. Donc, ce n'est pas juste une question de CGU, c'est un autre débat que celui de savoir est-ce que nous, notre monde vu... que nous sommes de plus en plus sur des réseaux sociaux divers et variés qui fonctionnent avec des CGU, est-ce que ça, de façon officieuse, tendance à modifier notre manière, oui, CGU, conditions générales d'utilisation, de savoir si ça a tendance à modifier ce qu'on peut ou pas faire, ce qu'on a droit ou pas de faire, ça s'oppose en fait à la manière dont est fait le droit, quel que soit le pays. Il y a une procédure législative. Elle est plus ou moins participative. Chez certains, c'est beaucoup moins que chez d'autres. Je ne donnerai pas des noms, mais je l'ai pensé assez fort. Donc, le RGPD, toujours, Règlement général pour la protection de données à caractère personnel, c'est une loi. S'y conformer, c'est obligatoire. Ce n'est pas une question. On fait comme ça. Donc, c'est là où on a un souci. C'est que dans son fonctionnement actuel... ce que TikTok vous garantit, y compris en termes de droit à l'oubli, c'est ouais, on verra. Enfin, sur un malentendu, ça peut marcher. J'y vais un peu fort, mais en fait, vous avez énormément de sujets là-dessus qui peuvent être discutés. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que sur certains volets, TikTok semble découvrir un peu que la loi, en fait, en Europe existe. Aux US, c'est autre chose. C'est, vous n'avez pas de loi similaire, en fait, dans son application au RGPD. Déjà, il y a un aspect en termes de force, des exigences, et donc avec quelle force je vais respecter les droits fondamentaux des personnes, parce que ce n'est pas du tout la même perception, en fait, de qu'est-ce que c'est les données à caractère personnel entre l'Europe et les US. Ce n'est pas la même perception, ce n'est pas la même philosophie. Mais aussi, vous avez un fonctionnement américain qui est particulier, c'est que chaque État reste relativement indépendant dans sa législation et que c'est très difficile d'avoir des lois dites fédérales, c'est-à-dire éditées de manière générale qui s'appliquent de la même manière chez tout le monde. Donc, on a des démarches là-dessus côté américain, ça fait plusieurs années qu'ils essayent. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tellement de scandales et tellement d'États individuels ont commencé à légiférer chacun dans son coin, que niveau fédéral, il y a cette démarche, essayons de faire quelque chose. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'équivalent du RGPD, j'entends, aux US. Je ne vais pas élaborer plus là-dessus parce que sinon on est parti pour jusqu'à demain matin. Mais, et donc quand on parle de droit à l'oubli, la question est que oui, c'est votre droit de dire « moi, cette vidéo, j'en veux plus, merci de la supprimer ». La question est toujours dans l'application de votre demande. Et donc si la personne ou l'entité juridique à qui vous le demandez peine à vous répondre, ne vous répond pas, etc., qu'est-ce que vous pouvez faire ? Là, on fait appel à la justice, au final. Vous pouvez faire une plainte à la CNIL, etc., etc., qui est une autorité administrative, ou carrément aller en justice. Mais parce que, en fait, votre problème, il n'est pas est-ce que ça existe, mais est-ce que je peux le faire appliquer ? En Europe, ça existe. Niveau application, on va voir.
Merci. Question suivante.
Madame, on ne voit pas.
C'est madame là-bas.
C'est moi. Alors, j'ai laissé mon imagination aller à la paranoïa, peut-être un petit peu trop loin, comme vous l'avez dit. Et j'ai pensé au fait qu'on va expérimenter avec les Jeux Olympiques en France, la reconnaissance faciale. Et j'avais deux petites questions qui sont peut-être un petit peu loin paranoïaque. Est-ce qu'il y a une reconnaissance faciale démocratique ? Est-ce qu'il peut y avoir des usages démocratiques des données biométriques ? Et est-ce qu'en France, on est en mesure, étant donné tous les risques que vous avez donnés là, depuis le début de la conférence, est-ce qu'on est en France en mesure de protéger ces données-là au regard de ce que peuvent posséder des gens qui peuvent nous vouloir du mal, comme vous l'avez dit ? Excusez-moi pour la paranoïa.
Qui veut répondre ?
Moi ?
Allez-y.
Alors, vous citez un exemple important, à savoir effectivement les Jeux Olympiques, dont on a vu qu'il y avait des sponsors qui pouvaient parfois poser question. Mais donc, je vous invite à regarder la liste des sponsors premium des Jeux Olympiques à Paris. Alors, la reconnaissance faciale est la base du contrôle politique des populations en Chine. Les plus importantes sociétés d'intelligence artificielle en Chine sont liées à des systèmes de reconnaissance faciale. Ils ont un savoir-faire dans ce domaine qui est de niveau clairement mondial. Un. Deux, peut-il y avoir une utilisation, je dirais vertueuse, le terme démocratique me pose problème dans ce cas-là. Une utilisation vertueuse de la reconnaissance faciale, oui, si elle est correctement encadrée. En fait, pour vous en parler, pour avoir beaucoup rédigé de textes de régulation, tout est dans l'exécution. Un texte, vous savez, tous les textes européens en discussion, y compris sur l'IA, il y a plusieurs textes, DSA, DMA sur les grandes plateformes, DGA sur justement les courtiers en données, et effectivement AIA sur l'intelligence artificielle, sont des textes dont on verra l'efficacité dans le détail de la mise en œuvre. Le principe peut être magnifique si la mise en œuvre, dès qu'il est question de technologie, tout est dans, comme disent les Chinois d'ailleurs, je crois, le diable est dans le détail.
Alors vous avez cité Vladimir Poutine, et là maintenant vous citez le gouvernement chinois.
La philosophie chinoise.
On avance.
Rassurez, avec une pincée de sel, hein, pour ce qui est de Vladimir Poutine. Par définition, oui, le vrai problème, c'est la durée de conservation, qui est très encadrée justement par le RGPD et effectivement les textes de protection. Là-dessus, parfois, il y a des excès qui sont condamnés quand ils sont découverts. Mais effectivement, le problème... Je vais vous dire, le problème qu'essaye, et je vous invite à vous pencher d'ailleurs sur le DGA, Data Governance Act, qui est le texte européen sur les courtiers de données, donc les data brokers, c'est qu'il faut séparer l'usage, l'extraction de la donnée, de l'usage et du traitement de la donnée. Je m'explique. Si la circulation de la donnée devient anarchique, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque tout à l'heure, Ena évoquait le fait qu'on ne soit pas en phase avec le droit. Je veux dire, clairement, TikTok n'est pas en phase avec le RGPD, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la plupart des data brokers ne le sont pas non plus. Et c'est une zone grise sur laquelle, justement, le texte européen est censé trouver des solutions. La question est, à l'heure actuelle, on ne maîtrise pas la circulation de la donnée personnelle, y compris biométrique. Vous avez peut-être entendu parler d'une société, excusez-moi le terme, un peu jeune, un peu Jones, comme on dit maintenant, une société qui s'appelle Clearview, ça vous dit quelque chose ? Sur la possibilité d'aller gratter toutes les photos partout pour être en mesure de retrouver une personne dès que vous mettez une photo. C'est le cauchemar des données personnelles biométriques. Par définition, c'est ça qu'il faut éviter. Et je dirais même mieux, nous, Européens, avons une chance historique de montrer qu'on peut créer des technologies qui soient protectrices des libertés et non pas attentatoires aux libertés, comme l'ont fait les Américains avec Facebook, et on a vu les résultats, et comme le font malheureusement les Chinois, comme on voit effectivement l'usage qui en est fait. Donc oui, je dirais qu'il y a une possibilité, mais tout à l'heure, je crois que le mot a été prononcé, minimisation, c'est-à-dire ne pas extraire trop de données. C'est un grand débat sur le fait, est-ce que nous ne sommes pas déjà en train d'extraire beaucoup trop de données sur les gens ? Alors évidemment sur les données biométriques en plus, nous devons nous interroger ce que fait une très importante chercheuse dans ce domaine, Shoshana Zuboff, dans son ouvrage sur le capitalisme de surveillance, s'il ne faut pas réduire l'empreinte de données que l'on va capturer sur les personnes pour préserver la démocratie. C'est son propos. Je vous invite à lire son livre qui est traduit en français, ce qui est rare dans ce domaine, qui s'appelle « L'âge du capitalisme de surveillance », qui est une somme remarquable. Donc si ma mémoire est bonne, il a été traduit chez Zulma, l'éditeur. Donc, par définition, c'est ces travaux-là sur lesquels il faudra se pencher dans les temps à venir. Merci.
Okay. Alors, petit
warning sur la taille du livre.
Ah,
c'est comme Guerre et Paix.
C'est mal. C'est mal parce qu'il y a beaucoup de notes. Il y a beaucoup de notes à la fin. Je vous assure que s'il y a un chapitre que vous devez lire, ça s'appelle le surplus comportemental, c'est-à-dire l'invention du micro-ciblage, puisque tout à l'heure on parlait du micro-targeting. Oui. L'invention par Google du micro-ciblage, c'est passionnant et flippant, les deux.
C'était juste une blague pour dire que, voilà, après, comme n'importe quel ouvrage de sciences humaines, ce n'est pas nécessairement qu'une lecture linéaire.
Non. Hein,
donc il y a pas mal de choses, mais soyez pas surpris, parce que...
Ça marche. Voilà. Surtout à l'heure de TikTok où on regarde une vidéo de 5 secondes, vous nous parlez d'un livre de 500 pages. À la Wang.
Le problème de l'article 7 là, de la loi sur les JO, le problème c'est de mettre en place quelque chose qui potentiellement, lorsqu'il y aura d'autres élections en France, sera déjà installé. Le problème, quand c'est installé, on désinstalle difficilement. Donc le problème, c'est comment un autre parti politique, on va dire plus autoritaire, arrivant en place, pourrait l'utiliser et donc de rattraper un petit peu ce qu'on fait en Chine. Ceci dit, pour recadrer un peu ce qui se passe en Chine, c'est que la note sociale en question, donc qui sont des données qui viennent de différentes sortes de données, hein. C'est vos achats, vos incivilités, etc. etc. Pour le moment, on est quand même encore dans une situation où gérer les données d'une manière, on va dire, avec des algorithmes d'intelligence artificielle automatique, c'est difficile. Je pense qu'il faudra quand même passer au quantique, parce que l'amas de données, la quantité de données qu'ils amassent est gigantesque. Et donc, pour le moment, on est plutôt dans un système où les données arrivent dans un bureau de la note sociale, avec des hommes derrière et des femmes, qui gèrent ces données et qui attribuent une note. Si, on n'est pas encore dans l'automatisation complète. On l'est d'autant moins que faut pas oublier qu'il y a 97 millions de membres du parti et que ceux qui font plus de bêtises, c'est quand même les membres du parti. Donc si tout est automatisé, ça va quand même poser aussi un sérieux problème. Donc là aussi, il y a quand même des modérations à avoir de ce côté-là. Maintenant, moi, je suis plus inquiet sur d'autres choses par rapport à la Chine, parce que la note sociale, c'est une chose parmi d'autres. Il y a la note santé. La note santé, c'est comme ils passent au e-yuan, donc les Chinois achètent maintenant tout à travers leur portable, donc tout est numérisé. Si quelqu'un, par exemple, achète beaucoup d'alcool ou se comporte mal, je sais pas, va dans des lieux mal famés, etc., immédiatement, c'est répercuté sur son téléphone. Il a une note et sa note demain devrait servir, à savoir s'il a un cancer, est-ce qu'il sera soigné tout de suite, ou comme il s'est mal comporté, est-ce qu'il va être mis dans une liste d'attente, et puis on verra plus tard si on le soigne. De toute façon, il ne s'est pas protégé, il n'a pas entretenu sa santé, donc il est responsable. Moi, je suis plus inquiet de ça, parce que c'est ce genre de choses qui pourrait très bien inspirer plein de gens. Et on nous explique souvent, et les Chinois expliquent ça, ils disent, mais vous savez, ce genre de technologie, finalement, ça nous fait des économies énormes sur le plan du PIB. Sur la note sociale, sur les incivilités, ils disent que grosso modo, ils vont économiser entre 5 et 6% du PIB. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais un jour ou l'autre, on nous renverra aussi les choses. Je veux dire, il faut aussi se rendre compte que les arguments passent et repassent.
je crois qu'il y a interférence d'ailleurs entre les notes sociales et les notes médicales. Les notes santé. Donc par définition. Il est vrai qu'aux États-Unis, certains réfléchissent déjà à introduire effectivement toutes sortes de pénalités. Je vous invite à regarder une loi effrayante qui a été proposée par l'administration Trump, heureusement rejetée, qui s'appelait la loi HR 1313, elle a un nom un peu amusant, qui proposait d'obliger tous les employés en entreprise américaine à subir un test génétique pour détecter justement de possibles vulnérabilités par rapport à telle ou telle pathologie. Et ceux qui ne l'auraient pas fait auraient dû payer qu'entre 4 et 5 000 dollars par an de pénalités. S'il ne voulait pas être screené génétiquement, c'est comme ça qu'on dit. Donc, par définition, cette tentation d'aller vers l'hyper-individualisation de l'assurance, pour dire les choses, elle est et la remise en cause de notre modèle social, ô combien. Donc, par définition, dans cette période, on parle beaucoup du modèle social français et européen. Je crois qu'il faut être bien conscient d'une chose, c'est qu'on a une tenaille de deux types d'acteurs, à la fois politiques et industriels, pour qui le modèle européen est un modèle à bannir, à détruire. Donc c'est une position peu agréable que d'être dans une tenaille sino-américaine, pour dire les choses, dans ce domaine. Mais effectivement, il y a un risque évident. Là, effectivement, sur le fait que ce soit encore artisanal sur le crédit social, de ce que j'en ai lu, en particulier une très belle étude de la Fondation Bertelsmann sur le sujet, la chose a quand même pris de l'ampleur. C'est-à-dire que ça a été mis en place lentement, avec des expérimentations dans une vingtaine de grandes villes chinoises, plus progressivement. Désormais, il y a effectivement maintenant, alors après savoir quel est le degré de réactivité, sachant en plus que la délation fait partie de la possibilité d'établir la note. C'est-à-dire que si vous êtes dénoncé par un voisin parce que vous vous comportez mal dans votre voisinage ou que vous émettez des propos qui sont considérés comme offensants par rapport à telle ou telle organisation. En gros, le risque... Un dernier point, c'est totalement, et ça nous paraît très contre-intuitif pour nous, Européens, c'est totalement admis par la population chinoise. C'est-à-dire que pour eux, le fait que l'État ait une vue totale, on dirait une vue panoptique...
Encore faut-il avoir aussi la certitude d'une prise de parole complètement transparente.
Oui. Je reviens sur un dernier sondage sur le bonheur en Chine. 98% des Chinois annoncent qu'ils sont très très heureux en ce moment.
Bien sûr.
Je doute un peu.
Donc je vous dis...
Moi aussi, j'en doute un peu.
Ayant été longtemps journaliste en Chine, je pense qu'il faut aussi se méfier un petit peu des sondages qui peuvent... une question sur YouTube, tiens. Dans quelle proportion TikTok est utilisé également en Afrique dans une stratégie d'influence des acteurs autoritaires sur le continent ?
Alors, j'ai pas de chiffres, mais de facto, c'est l'une des applications qui aura connu, en particulier, on en parlait pendant le Covid, le décollage le plus fulgurant. Je crois qu'il n'y a pas de raison de croire que l'Afrique soit à l'écart du phénomène. Mais je ne suis pas en mesure, peut-être, monsieur.
Alors, non, pas de.
Non, j'ai pas d'informations spécifiques.
Question, madame.
Il y avait déjà une question à ce niveau.
On va essayer de répondre maintenant de façon, pour tous les trois, de façon rapide, synthétique.
On vit dans un monde paradoxal. D'abord, merci pour ce débat absolument passionnant. On vit dans un monde paradoxal où on a un développement des réseaux sociaux et TikTok semble avoir fait un boom exponentiel par rapport aux autres. Et parallèlement à ça, on a un monde qui se préoccupe, et en particulier les jeunes générations, du réchauffement climatique et des enjeux de dépenses énergétiques. Or, ces réseaux sociaux sont par nature consommateurs d'électricité à une puissance incroyable. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la lutte réchauffement climatique pourrait être un frein justement à la multiplication de ces données, à la limitation de l'empreinte donnée, ou est-ce que c'est un vœu pieux d'Européens que ne partagent ni les Américains ni les Chinois ?
C'est pour vous, Réna, ça, non? Allez.
Non.
Allez.
Au boulot. Je vais faire pour les Chinois, je vais faire une réponse en queue de poisson. Ouais. Ben, ils vont rajouter des centrales thermiques au charbon. Ils en font deux par mois supplémentaires, donc il n'y a aucun problème. Oui.
Réna?
Alors, je ne m'attendais pas tout à fait à cette question-là. En fait, moi, j'ai un avis assez partagé sur le sujet, sur l'empreinte, on va dire, carbone du numérique, qui est que très souvent, en fait, on a tendance à nous dire « faut que nous, individus, on fasse attention à nos usages ». Et quand on regarde, en fait, ce qui pollue le plus, en fait, c'est des choses qui sont totalement hors du contrôle des individus que nous sommes. Et donc, et si vous voulez, donc je vais vous faire une question une réponse qui est à côté, entre guillemets, dans le sens où, qui est de dire, est-ce que c'est la bonne question à se poser? Est-ce qu'en fait, on doit se préoccuper de l'impact écologique des données que telle appli ou telle appli collecte? La réponse dans l'absolu est bien sûr oui, j'essaie de dire, c'est qu'il faut replacer ça aussi dans son contexte. Et que si, en fait, on ne reconnaît jamais la responsabilité collective sur des activités beaucoup plus polluantes, c'est pas moi qui fait du zéro déchet depuis 2016 et qui fait un sac poubelle par semaine, pas tous les 10 jours, c'est pas moi qui vais changer la face du monde. Hein. C'est pas parce que vous mangez vegan que vous prenez que le train ou le vélo. C'est pas ça qui va changer les choses. L'idée, en fait, c'est là que la situation est un peu compliquée. C'est combien, en fait, un outil de mobilisation, parce qu'il est extrêmement populaire, permet d'informer et de mobiliser et donc de dépasser ce côté très individualiste. Alors c'est à toi d'acheter du vrac, de faire je sais pas quoi, machin, et en fait de passer à un vrai engagement, si vous voulez, collectif, et donc de reconnaître en fait aussi une responsabilité collective dans cet enjeu-là qui est la mère ou le père, comme on veut, de tous les enjeux, quoi. Parce que, je veux dire, si, à un moment donné, ça paraît un peu philosophique comme ça, mais est-ce qu'on peut avoir une application de l'IA démocratique si dans 10 ans, on n'a plus de planète? J'ai envie de vous dire, oui, peut-être, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Et c'est là où, et c'est puisqu'on parle de planète et d'environnement, je parle toujours sous votre contrôle, mais cette vision civilisationnelle, elle est très importante en Chine. C'est quand je présente ça à mes étudiants et étudiantes à Sciences Po, ils sont vraiment surpris. Il y a un space camp, je ne sais plus dans quelle région en Chine, qui un peu mime l'environnement sur Mars. C'est comme si vous envoyiez vos ados en colo. Et ben en fait, dans cette colo-là, on voit ce que serait de vivre sur Mars. Et donc quand moi je pose la question à mes étudiants, comment est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous feriez vous dans 10 ans, il y en a aucun qui me répond je pourrais peut-être vivre sur une autre planète. Les seuls qui me répondent ça, c'est dans les étudiants internationaux, sont les étudiants chinois. C'est une anecdote peut-être, mais pour moi c'est suffisamment. En fait, ça me donne quelques, on va dire, frayeurs, en me disant que nous avons vraiment une vision extrêmement différente, collectiviste, individualiste, etc., et une vision civilisationnelle. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, qui est vraiment distincte entre les deux. Et donc la question, c'est est-ce que l'outil de mobilisation, il est plus utile pour mobiliser, ou est-ce que en fait je devrais me préoccuper de regarder combien un mail coûte en termes d'empreinte carbone, quoi.
Merci Réna. Vous vouliez dire quelque chose, Bernard?
Oui,
Benhamou.
Juste,
Mathilda, est-ce qu'on peut prolonger d'un quart d'heure ou c'est faire? Oui, merci. D'accord. Parce
c'est
que là,
gentil.
C'est tellement.
C'est gentil. Je vais tenter de...
Mais c'est pas, vous n'avez pas un quart d'heure. Hein.
Non, c'est gentil. Vous connaissez la blague. C'est combien de temps avez-vous ? Le temps que vous voulez, mais nous, on part dans 10 secondes. Ouais. Donc, l'idée, c'est que oui, on va devoir se pencher sur le bilan carbone global de la filière. Les data centers sont des gouffres énergétiques. Pour mémoire, on paye deux fois le prix de tous les ordinateurs par an en termes de facture énergétique dans les data centers. Donc, par définition, l'une des questions qui se posent au niveau international, voyez, même onusien, pour tout vous dire, c'est est-ce qu'on devra favoriser des architectures décentralisées de stockage plutôt que ces gigantesques data centers dont les Chinois sont très friands et qu'ils développent largement, parfois même à côté d'infrastructures critiques, et ça pose parfois des questions, je ne sais pas si vous voyez. Mais fondamentalement, oui, je pense qu'il y aura un débat sur le devenir. Alors évidemment, le gros du morceau dans la filière, c'est évidemment l'empreinte carbone de la création du matériel. C'est-à-dire que créer un microprocesseur, ça demande une énergie considérable, des ressources considérables, de l'eau de manière considérable, etc. etc.
Des terres rares aussi.
Absolument, des terres rares dont on vient de découvrir un gisement au nord de la Suède. Et donc, effectivement, tout ça fait l'objet de grands débats. Mais il est vrai que ce qui apparaissait au départ comme un non-sujet, c'est-à-dire effectivement l'impact global de la filière, devient un sujet. Et pour tout vous dire, je travaille en ce moment un rapport pour la Commission européenne, enfin dans le cadre d'un projet de la Commission européenne sur développement durable et numérique, parce qu'effectivement, il y aura une nécessité à terme de se pencher sur la question. Voilà.
Deux questions, madame. Je vous ai vu lever la main tout à l'heure. D'accord. Bon, bah, très bien.
Bonsoir. Merci pour la conférence. Vous avez parlé du réveil des États-Unis et de l'Europe face à TikTok. Est-ce que l'application existe à Taïwan ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Et est-ce que si elle existe, est-ce qu'elle et les autorités ont pris des positions ? Et également sur suite à la mise au pas de Hong Kong, mise au pas sécuritaire, est-ce que ces applications ou Douyin ont été utilisées à votre avis par les autorités ?
Alors, de ce que je sache, à Taïwan, non. Pour des questions de sécurité. Non. Je pense pas. Hein, mais
ni Douyin.
Non, surtout pas Douyin. ça, c'est clair. Ni TikTok. Il me semble. Hein, il me semble que sur Taïwan.
Voilà, depuis décembre 2002. Alors, c'est vraiment open source Internet.
Ouais.
Voilà. Un bannissement public, je traduis de l'anglais, de TikTok à Taïwan.
À Taïwan, oui. Il me semblait.
Pour des questions de sécurité nationale. Vous parlez d'Hong Kong aussi, je crois ?
Alors, Hong Kong, par contre, Hong Kong est en train d'être intégré dans le ChinaNet. Et donc, évidemment, au fur et à mesure, Hong Kong, on verra disparaître Facebook, on verra disparaître tout. Et TikTok qui sera remplacé par Douyin, puisqu'on est dans un chemin de nettoyage, on va dire, de la pensée des jeunes Hongkongais pour en faire des petits Chinois qui ressembleront aux Chinois de l'autre côté. Donc, à mon avis, à terme, ça va disparaître. Oui, ils l'ont utilisé une période, oui, bien sûr. C'est-à-dire... Oh, ça c'est fort possible, oui. De toute façon, la connexion le passage entre Hong Kong et la Chine existait depuis toujours. Sauf que là, je dirais, ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de remettre Hong Kong dans le ChinaNet, et donc c'est plutôt de couper Hong Kong de sa capacité d'aller prendre de l'information à l'extérieur. C'est ça qu'ils sont en train de faire.
Autre question ?
Je crois qu'on se tient entre vous et l'apéro.
Ouais. J'avais juste une dernière question sur. Non, mais pour rebondir, Alain Wang, sur cette question de vision du monde différent qu'évoquait Rena Stamboliska, parce que bon, voilà, vous avez quand même cette vision et de la Chine et de l'Occident. Est-ce que c'est aussi binaire, cette question de si un jour la Terre vient à disparaître, nous on se voit très bien dans 10 ans vivre sur Mars ou sur la Lune ou sur Jupiter. C'est quelque chose qui vous surprend ou est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être un peu dans l'essentialisme
Oui, non, moi je ferais bon, je dirais par rapport aux Chinois, le problème c'est d'abord qu'ils n'ont pas la parole, donc on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Et puis secondo, je pense que les jeunes Chinois, comme l'ensemble du monde, beaucoup sont allés faire des études à l'étranger, beaucoup ont voyagé, ils n'ont certainement pas la vision qu'a leur gouvernement actuel, Ça, c'est clair. Maintenant, sont-ils capables de faire une révolution pour changer les choses? Dans la question suivante, ça me paraît difficile, justement, à cause de la mise en place de surveillance de masse à travers le numérique. Mais je pense que la majorité des Chinois, d'ailleurs, on le sent, hein, la génération, on va dire, de la classe moyenne, aujourd'hui, on dit c'est les tramping, c'est les gens qui s'allongent. C'est-à-dire, ils s'allongent, ils veulent plus rien faire. Ils veulent plus aller bosser dans les entreprises, ils veulent plus, etc., etc., parce qu'ils veulent pas participer au système. Je dirais, quelque part, c'est assez profond. Alors après, qu'on en ait, qu'ils soient nationalistes, membres du parti, qui peuvent faire ce genre de réponse, il y en a. Hein. Moi, quand j'ai mes étudiants à Centrale, je questionne toujours pour savoir qui est au parti. Comme ça, on sait en fonction des réponses qu'on peut attendre. Mais ça existe certainement. Maintenant, on peut pas mettre, je pense, de l'ensemble de la jeunesse dans cette vision-là, je dirais. La vision du parti, des membres du parti, évidemment, je dirais au-delà, avant d'aller sur la Lune, je pense que la problématique de la Chine, elle est importante sur le plan écologique et sur le plan de l'agriculture, et qu'il y a d'autres endroits, à mon avis, où ils iront avant, c'est certainement l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on va dire tout l'Indo-Pacifique, qui est vraiment en point de mire, on va dire, de la politique chinoise. D'ailleurs, juste pour conclure, pour montrer quand même qu'ils revendiquent l'Australie par rapport à nous, c'est que, il y a un mois, ils ont découvert, soi-disant, une super statue qui daterait de la période des Song, des Tang, je ne sais pas quoi, pour essayer de montrer idéologiquement que la Chine était déjà présente en Australie bien avant les Occidentaux, et donc il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas aujourd'hui. Donc on a tous ces jeux comme ça derrière qui sont en train de se faire. Hein. Donc attention, avant la Lune.
Faut pas négliger la Lune. Non, mais j'insiste. J'insiste parce que cette histoire de métaux rares, vraiment, on oublie qui en a le monopole aujourd'hui.
La Chine. Dans l'extraction, en tout
voilà,
cas.
Voilà, dans l'extraction. Il y a de vrais sujets dans les projets de recherche, de prospective, etc., que je peux faire. J'avais des clients australiens. C'était assez intéressant parce que eux, en fait, cherchaient directement à aller justement avec un consortium chinois sur la face cachée de la Lune, littéralement, parce que en fait, vous avez un cadre légal qui est très particulier sur la propriété de ce qui est trouvé dans l'espace. Et en fait, ça, les Américains sont au courant. Et en fait, la façon dont ils gèrent ça. C'est Trump qui a lancé ça. C'est plutôt que de repasser par la convention, on va dire, assez générique qui existe à l'ONU. En fait, ce que Trump a commencé à faire quand il était encore président, j'espère que ça restera avec un seul mandat, mais toujours est-il qu'il a lancé ce qu'on appelle les accords Artemis, qui sont des accords bilatéraux de pays à pays. Pourquoi pas les faire par le biais de l'ONU? Parce que si on les faisait par le biais de l'ONU, devinez qui serait partie prenante? La Chine. Donc, ce que les US ont commencé à faire, c'est essayer, par le biais d'accords bilatéraux, à établir des règles de propriété sur ce qu'on trouve dans l'espace. Et donc, quand vous voyez aussi la démarche extrêmement, on va dire, engagée et suivie d'exploration spatiale côté chinois, c'est pas juste parce qu'ils ont regardé Star Trek et Star Wars comme nous tous. Hein. C'est parce que en fait, il y a des choses à aller chercher qui en fait sont largement plus tangibles et plus quotidiens et plus actuels que aller vivre sur Mars. Non.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle conférence donc organisée par Asialiste et l'INALCO. Donc comme à chaque fois, c'est un événement hybride puisque nous sommes donc ici présents, nous avons également une diffusion sur le live YouTube, et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions, on en choisira certaines qui seront posées lors de la seconde partie de cette conférence. Conférence donc consacrée à TikTok, le réseau social dont tout le monde parle. Alors je vais tenter de mettre une petite vidéo d'illustration de TikTok, si j'y arrive. Ce sont les vidéos, en fait, quand j'ai découvert TikTok il y a quelques semaines, où j'ai, c'est la première vidéo, j'ai fait une capture d'écran de mon téléphone. Alors je ne sais pas si elle va partir. On va voir, il faut que je fasse Windows P, on m'a dit, et que je mette dupliquer.
Voilà, et normalement, ça doit partir. Voilà, voilà. Bon, je vais peut-être vous épargner le son. Voilà, j'ai découvert un monde que moi, je ne connaissais pas du tout. Ce monde donc de vidéos rythmées, virales, extrêmement courtes. Que 1,7 milliard de personnes ont suivi pendant l'année 2022 dans le monde entier, réseau donc qui a su conquérir une grande majorité de jeunes avec donc les vidéos que vous voyez ici qui sont faciles à réaliser, faciles à éditer, à partir desquelles on peut apprendre donc à monter une étagère, cuisiner une recette, parfaire son maquillage, effectuer une chorégraphie, diffuser un message éducatif ou politique, mais aussi se lancer des défis aussi loufoques que dangereux dans certains cas. Et TikTok donc qui est aujourd'hui pointé du doigt par un ensemble d'acteurs gouvernementaux, notamment à l'étranger, en particulier en Occident. On lui reproche donc son manque de projection de données, de protection, pardon, des données personnelles. On lui reproche d'entraîner une addiction qui n'a jamais été vue jusqu'ici sur les réseaux sociaux. 95 minutes passées en moyenne par les utilisateurs chaque jour. Chaque utilisateur en moyenne passe 95 minutes sur TikTok grâce à son algorithme ultra personnalisé. Et on lui reproche bien sûr son appartenance à une société chinoise, en l'occurrence la maison mère de TikTok, qui s'appelle ByteDance et qui est un géant d'Internet qui est basé à Pékin.